Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un mois après la renonciation historique de Benoît XVI, 115 cardinaux de l'Église romaine se préparent à entrer en conclave pour élire son successeur, le 266e pape de l'histoire. À partir de mardi matin, ils résideront à la maison Sainte-Marthe, un ancien hospice réaménagé dans l'enceinte du Vatican. La messe pour l'élection du pontife romain, célébrée en latin, se déroulera mardi matin en la basilique Saint-Pierre à partir de 10h. Elle sera présidée par le cardinal Angelo Sodano, doyen du Sacré Collège. Dans l'après-midi à 16h15, les cardinaux se rassembleront dans la chapelle Pauline pour se diriger en procession vers la chapelle Sixtine au chant des Litanies des Saints. Ils traverseront la salle royale. Après le Veni Creator, ils prêteront serment. Le conclave pourra enfin commencer sous le sceau du secret le plus absolu. Après la méditation, un premier tour de scrutin pourrait avoir lieu dès mardi soir. Ce lundi matin, 152 membres du Sacré Collège ont participé à la 10e et dernière congrégation générale. C'est ainsi que l'on appelle les réunions préparatoires qui précèdent le conclave et qui permettent aux cardinaux de mieux se connaître et de faire le point sur la situation de l'Église et sur les défis qui attendent le prochain pape. Au cours de son point de presse quotidien, le père Federico Lombardi a indiqué que le cardinal Tarcisio Bertone était intervenu lundi matin sur la situation de l'Ior en qualité de président du comité de surveillance de l'Institut pour les œuvres de religion. Une partie des cardinaux aurait voulu encore une dernière congrégation lundi après-midi, mais la décision a finalement été prise d'en rester là pour pouvoir se reposer également, préparer le déménagement des cardinaux de leur résidence dans Rome à la maison Sainte-Marthe au Vatican, où ils logeront donc pour tout le temps du conclave. Lundi après-midi, c'est à une prestation de serment de garder un secret total sur le conclave qu'ont dû se soumettre quelques 90 personnes nécessaires à son bon déroulement. Les cardinaux électeurs s'y soumettront mardi, une fois enfermés dans la chapelle Sixtine vers 17h. Bernard de Cotigny.
Le personnel du Vatican chargé de l'organisation, de la logistique et de l'intendance pour le conclave a prêté serment en fin d'après-midi dans la chapelle Pauline, selon un rituel fixé par le bureau des célébrations liturgiques pontificales. Serment sur le secret absolu à garder autour du conclave, sous peine d'excommunication. L'article 46 de la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis de 1996 affirme que pour faire face aux besoins personnels et de services liés au déroulement de l'élection, devront être disponibles le secrétaire du collège cardinalis, le maître des célébrations liturgiques pontificales avec deux cérémoniaires et deux religieux chargés de la sacristie pontificale, mais aussi un ecclésiastique choisi par le cardinal doyen ou par le cardinal qui le remplace, en l'occurrence cette fois-ci le cardinal Ray, afin de l'assister dans sa propre charge. Dans le motu proprio qu'il a publié le 22 février dernier, Benoît XVI a fait passer de 2 à 8 le nombre des cérémonières assistant le maître des célébrations liturgiques pontificales. Mais parmi les personnes qui ont dû prêter le serment de garder le secret absolu, figuraient aussi des religieux de diverses langues pour les confessions, ainsi que deux médecins pour des urgences éventuelles. Ce serment concernait en outre le personnel en charge du ménage et des repas dans la maison Sainte-Marthe, où logeront les 115 cardinaux électeurs, ou encore les chauffeurs chargés de conduire ces derniers jusqu'au palais apostolique où se trouve la chapelle Sixtine. Les quelques gardes suisses qui en surveilleront les accès ont aussi prêté serment. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du cardinal Camerlingue Tarcisio Bertone et de deux protonotaires apostoliques.
Les cardinaux seront coupés du reste du monde pendant toute la durée du conclave. La chapelle Sixtine sera inspectée pour empêcher la pose de micro ou de mini-caméra. Les cardinaux doivent s'abstenir de se servir d'instruments d'enregistrement, d'audition ou de vision. Pas question non plus de surfer sur Internet ni d'utiliser Twitter ou Facebook pendant le conclave. Les téléphones portables et autres tablettes tactiles seront rendus inutilisables par un système de brouillage. Interdiction de lire les journaux, écouter la radio ou regarder la télévision. Avant chaque scrutin, chacun des cardinaux électeurs devra encore jurer de garder le secret absolu sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins pour l'élection du souverain pontife. Et à part la fumée blanche signalant que l'Église a un nouveau pape, rien ne filtrera à l'extérieur sur son identité avant la proclamation une quarantaine de minutes plus tard du nom de l'élu en latin. Cette aura de mystère qui entoure les conclaves nourrit les imaginations et aiguise les curiosités. On veut en savoir plus. Les termes employés sont en effet très spécifiques. Les confusions et inexactitudes sont d'ailleurs fréquentes. Une congrégation générale n'est pas un conclave. Un conclave n'est pas un synode ni un concile. Et il est régi par des règles précises. Écoutez alors l'éclairage de Philippe Levillain, historien, spécialiste du catholicisme et de la papauté. Il a présidé à la rédaction du dictionnaire historique de la papauté aux éditions Fayard et il est interrogé par Manuela à Figi.
Un conclave, c'est une réunion au cours de laquelle les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans sont enfermés, concavés, avec une clé, et en principe ne peuvent en sortir qu'une fois l'élection du pape faite. La nouvelle règle, c'est que comme ils sont obligés dorénavant de rejoindre leur habitation à Domus Sanctae Marte, ils sortent sous haute surveillance pour se rendre dans leur appartement et prendre leur repas.
Les conclaves n'ont pas toujours existé. Alors, quand ont-ils été mis en place et comment s'effectuait auparavant l'élection du pape ?
Avant les conclaves, dont la règle est fixée simplement au XIIIe siècle avec le conclave dit de Viterbe, où les cardinaux n'arrivant pas à se mettre d'accord sont enfermés par le seigneur de la ville et on leur porte la nourriture par le toit. Avant, les papes sont élus par le clergé romain. Les cardinaux sont d'ailleurs les successeurs du clergé romain. C'est pour ça que tous sont titulaires d'une église romaine, soit à Rome, soit dans la banlieue de Rome, parce que cette attribution figure symboliquement leur appartenance au clergé de Rome d'autrefois.
Qu'en est-il de la dimension politique qui intervient lors du choix du souverain pontife ?
Les décisions ont toujours été politiques, elles le sont même encore aujourd'hui. Le problème est d'arriver à faire coïncider les intérêts de l'Église avec la représentation spirituelle qui doit être d'un pasteur qui est vicaire du Christ. Il y a une coïncidence, il y a la cité terrestre et la cité céleste. La question qui se pose est qui se tient au-dessus des grandes querelles politiques. Il ne faut pas penser que la papauté est désincarnée et la prochaine sera encore moins que les autres.
Qu'est-ce qui différencie les conclaves des siècles antérieurs de ceux du XXe siècle ?
D'abord, ils se font vraiment sous les sidelines de l'opinion publique, de plus en plus, notamment depuis l'élection de Jean XXIII. Et d'autre part, parce que l'opinion publique est très attachée au pape depuis Vatican II, donc depuis 1962, la mort de Jean XXIII en 1963, l'élection de Paul VI en 1963, la mort de Paul VI en 1978, la brève apparition de Jean-Paul Ier en août-septembre 1978, l'élection triomphale de Jean-Paul II, l'agonie très longue, etc., et l'élection inattendue mais attendue de Benoît XVI en 2005. Donc cet événement fait que l'élection pontificale est en actuel un événement planétaire.
Et comment expliquer cet engouement médiatique ?
Parce que le pape est devenu un personnage qui incarne ce qu'on appelle le troisième grand. Il y a effectivement les États-Unis, l'URSS et le Saint-Siège, qui n'a pas la puissance économique ni non plus atomique des deux autres, mais qui a une puissance atomique qui s'appelle, la spiritualité, et qui est une force considérée comme une force d'arbitrage. D'autre part, parce que c'est une élection qui est réputée secrète, mené à coup de tractation, etc., ce qui est faux. C'est une élection difficile, pas plus difficile que l'élection du président des États-Unis sur le système électoral américain ou l'élection française.
Est-ce que vous pouvez nous raconter une ou deux anecdotes qui auront marqué l'histoire des conclaves ?
À l'esprit récent, c'est la mort, si je veux dire, providentielle de Jean-Paul Ier en 78, qui ne pouvait pas exercer la charge visiblement, et qui fait que les gens ont décidé d'apprendre que le pape était mort 33 jours après. Il y a la fameuse chute de Pie XII qui rate la marche avant d'entrer au conclave, et qui est considérée comme le fait qu'il va rater le pontificat alors qu'il est élu. Je vais vous dire, le conclave fourmille d'anecdotes, elles sont plus ou moins vraies. Mais on oublie aussi une chose, par exemple, c'est qu'il arrive qu'il y ait des morts pendant le conclave. Donc, à ce moment-là, ça casse le rythme du conclave.
C'était l'historien Philippe Levillain. À travers le monde, des temps de prière sont proposés pour accompagner spirituellement le conclave, y compris à Rome, dans l'église la plus proche de la place Saint-Pierre. C'est l'église du Centre San Lorenzo, un centre international pour les jeunes créé il y a 30 ans par Jean-Paul II. Depuis lundi matin, les jeunes du monde entier présents à Rome sont invités à participer à une prière non-stop jusqu'à l'élection du nouveau pape. Reportage Anthony Torzek.
Un planning accueille les visiteurs à l'entrée du centre San Lorenzo. Une case pour chaque demi-heure, jour et nuit, a-t-on le nom d'un jeune qui promet de participer à cette adoration non-stop du Saint-Sacrement ? Ainsi, jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontife, chaque jour, chaque heure, des jeunes seront là pour prier pour les cardinaux électeurs. Cécile Delattre est responsable de l'accueil au centre San Lorenzo.
C'est pas juste une adoration continue pour le carême ou quoi que ce soit. On présente vraiment au Seigneur les cardinaux qui rentrent en conclave. Ici, on a la grâce d'avoir une église qui est vraiment juste à côté de la place Saint-Pierre. Donc, on se sent vraiment au cœur de l'église. Donc, on s'est demandé un peu comment, de manière très concrète, on pouvait avoir ce rôle un peu de jeune au cœur de l'église. Et il nous a semblé que la meilleure manière, c'était de se joindre par la prière. Donc, les jeunes se sont sentis tout de suite très concernés. C'est vrai que pour les jeunes, c'est très touchant de se dire qu'on est là en train de prier au milieu de la nuit devant le Saint-Sacrement pour des cardinaux qui dorment à 100 mètres de nous, même pendant la journée. De se dire qu'on priera lorsqu'ils seront en train de voter, c'est extrêmement touchant. C'est une dimension très concrète et évidemment très touchante pour les jeunes. Et je pense que c'est aussi pour une belle manière de redécouvrir leur amour pour l'Église et pour Rome, le cœur de l'Église à Rome.
Chaque jour, jusqu'à l'élection du nouveau pape, ce sont donc plusieurs centaines de priants qui vont donc venir ici dans cette église du centre San Lorenzo, située à 100 mètres seulement de la chapelle Sixtine.
De l'avis de tous, ce conclave devrait être court dans la lignée de l'histoire récente. Sauf surprise, selon le père Lombardi, la fumée blanche devrait apparaître entre 2 et 4 jours après le début du conclave. Depuis 1903, aucun conclave n'a duré plus de 5 jours. Jean-Paul Ier, qui n'a régné que 33 jours, avait été élu en 24 heures. Pour être élu, aujourd'hui, il faudra obtenir 77 voix, soit les 2/3 des suffrages du collège des 115 électeurs. Et même si l'expérience des précédents conclaves a démontré la fragilité des prévisions, chacun y va avec ses pronostics. Et même si le critère géopolitique n'a pas le poids qu'on lui attribue à tort, je vous propose un petit retour sur la composition géographique du collège des cardinaux avec Thomas Chabol.
L'Europe sera le continent le plus représenté dans la chapelle Sixtine. 60 cardinaux électeurs sur 115 sont européens, suivent les Amériques avec 33 cardinaux. L'Italie est le pays qui compte le plus grand nombre de représentants avec 28 cardinaux, suivis des États-Unis, 11 cardinaux, et de l'Allemagne avec 6 cardinaux. Contrairement à 2005, la Chine, l'Égypte et le Kenya seront représentés par un cardinal. Sur les 115 cardinaux électeurs, 40 ont travaillé ou travaillent au sein de la curie ou dans des structures ecclésiastiques romaines. 67 ont été créés par Benoît XVI et n'ont donc jamais participé à un conclave. L'âge moyen des électeurs du futur pape est de 71 ans environ. Le cardinal Walter Kasper a eu 80 ans le 5 mars, c'est-à-dire après le début de la vacance du siège apostolique. Il participe donc au conclave. Deux autres électeurs auront 80 ans respectivement le 18 et le 20 mars. Les deux plus jeunes électeurs sont l'Indien Totunkal, 54 ans, et le Philippin Taglé, 56 ans. 19 ordres religieux sont représentés, les plus nombreux étant les Salésiens, suivis des Franciscains, auxquels il faut ajouter le cardinal péruvien Cipriani, membre de la prélature personnelle de l'Opus Dei.
Au cours des congrégations générales, les cardinaux ont donc exprimé leurs attentes par rapport au nouveau pape. Ils ont réfléchi à la meilleure manière d'améliorer le service de la curie romaine. Ils ont évoqué quelques chantiers, le dialogue interreligieux, les questions de bioéthique, la justice dans le monde, la nouvelle évangélisation, le rôle des femmes, la collégialité, l'écuménisme, l'attention aux pauvres, les rapports entre les dicastères de la curie et les épiscopats, le processus de renouveau à la lumière du Concile Vatican II. Mais les fidèles, eux, qu'attendent-ils, et surtout les jeunes? Jean-Baptiste Cocagne a posé la question aux prieurs de la communauté écuménique de Thésée. Selon frère Aloïs, les jeunes attendent un nouveau pape dans la continuité de Benoît XVI, un pape simple et qui montre l'essentiel de la foi. Le chantier de la nouvelle évangélisation passe par un dialogue accru avec les jeunes. On l'écoute.
Ce qui m'a frappé lors de notre prière avec le Saint-Père sur la place Saint-Pierre le 29 décembre, c'est que beaucoup de jeunes ont dit après, ils ont aimé la simplicité avec laquelle le pape était là, priant parmi eux et nous aidant à regarder vers le Christ. Le cœur du ministère du pape est devenu plus clair pour les jeunes qui étaient là présents. Benoît XVI a montré ça au JMJ. Et le fait qu'il a introduit des moments de silence, des moments d'intériorité dans ces grandes fêtes avec les jeunes, je crois que ça c'était une avancée, une vraie avancée très importante. Les jeunes attendent, je pense, que cela soit approfondi, qu'ils nous montrent l'essentiel de la foi et qu'ils soient proches. approche des jeunes dans une simplicité.
Alors là, on a parlé des jeunes. Quelles sont vos attentes à vous, frère Aloïs, pour le prochain pape ?
Son ministère est très important pour la réconciliation entre chrétiens. Benoît XVI a montré, a fait des gestes envers les chrétiens des autres églises et communautés chrétiennes. J'espère beaucoup que cela continue et que cela aussi soit approfondi.
Quels seront les chantiers les plus importants du prochain pape ?
Je pense une ouverture pour les jeunes, pour la jeune génération. Je me rappelle du dernier synode des évêques à Rome où j'ai pu participer sur la nouvelle évangélisation. Et c'était un grand souci qui était exprimé par beaucoup d'évêques. Comment transmettre l'évangile aux nouvelles générations? Et un autre chantier est justement l'écuménisme, l'unité. Notre témoignage d'évangile manque de crédibilité à cause de nos divisions entre les chrétiens. Et pour nous, pour notre communauté, c'est une attente que nous avons pour le prochain pape.
Frère Aloïs Prieur de la communauté écuménique de Thésée. Alors que les pronostics dans la presse vont bon train à quelques heures de l'ouverture du conclave, sur la toile, les simples fidèles s'expriment eux aussi. Alors ils aimeraient un pape lumineux, transparent, prophétique, qui ne se laisse pas conditionner par les mécanismes politiques et financiers, qui accorde la priorité aux attentes des familles, aux angoisses des hommes de notre temps, aux projets des plus humbles, un guide dans les ténèbres, une main chaleureuse dans les moments de désarroi, qui sache être proche des jeunes sans avenir, un nazaréen qui se penche sur la douleur du monde, un samaritain qui ne soit pas trop pressé, un pape qui s'en remette à l'évangile et pas à Twitter, un homme qui sache parler au cœur, un homme humble et sage comme Benoît XVI. Benoît XVI, justement, qui a provoqué un choc dans l'Église et dans le monde il y a tout juste un mois, le 11 février, en prenant une décision historique. Nous ne reviendrons pas dans cette émission sur le sens de sa renonciation. Nous ne referons pas de bilan sur ses 8 années de pontificat. Pour lui rendre hommage, nous vous proposons de réécouter sa dernière intervention publique en français. C'était lors de l'audience générale du 27 février.
Chers frères et sœurs, en ce moment, je voudrais surtout rendre grâce à Dieu qui guide et fait grandir l'Église, qui sème sa parole et nourrit aussi la foi de son peuple. Je remercie toutes les personnes qui, avec générosité, m'ont aidé et m'ont été proches durant mon pontificat. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquels vous l'avez accueilli. Je continuerai à accompagner le chemin de l'Église par la prière et la réflexion. En cette année de la foi, je vous invite à renouveler votre ferme confiance dans le Seigneur et à vous sentir aimé de Dieu qui nous a montré son amour infini. Il guide et soutient toujours son Église. Ne perdons jamais de vue cette vision de foi. Que votre cœur soit rempli de la joyeuse certitude que le Seigneur est proche de nous, qu'il nous accompagne de son amour. Je vous salue cordialement, chers pèlerins de langue française, en particulier les personnes venant de France, de Belgique et des pays francophones qui ont voulu m'accompagner en étant présente ici ou par la radio ou la télévision. Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux appelés à élire un nouveau successeur de l'apôtre Pierre. Puis aussi pour que le Seigneur l'accompagne de la lumière et de la force de son esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci.
C'était le pape émérite, sa sainteté Benoît XVI. Sachez qu'en plus de ces émissions ordinaires, Radio Vatican assurera ces jours prochains le reportage en direct avec commentaires en français de la messe pour l'élection du pontife romain et de l'entrée en conclave. Par ailleurs, dès l'ouverture du conclave, tous les soirs, à partir de 17h30, nous suivrons l'issue du scrutin et la couleur de la fumée qui s'échappe du toit de la chapelle Sixtine. En collaboration avec RCF et Radio Notre-Dame, toute la rédaction de Radio Vatican se mobilise avec des invités et des journalistes au plus près de l'événement. Reportage, interview, témoignage et le journal de 18h en direct. Et en cas de fumée blanche, quelle que soit l'heure, nous serons en direct pour découvrir tous ensemble le nouveau pape. À suivre sur notre site www.radiovaticana.va, en vidéo sur le Vatican Player, en direct radio sur le canal 7, accessible sur notre site et sur l'application Radio Vatican pour iPhone et Android. Vous pourrez nous suivre également sur Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité.